maintenant rentrer dans le vif du sujet, on arrive en 2008 et Marvel Studios lance Iron Man après les films dont on a parlé dans la première partie. Justin, est-ce que tu veux nous présenter ce premier Iron Man de Jon Favreau?
Oui,
et
donc,
pourquoi ça a été un turning point comme ça?
Oui, donc alors c'est le premier film produit vraiment par Marvel Studios, donc directement produit, financé par Marvel Studios. Et donc, c'est une première tentative, donc avec un super-héros d'ailleurs pas si populaire que ça, donc vraiment un pari risqué, donc avec une production assez mouvementée, donc avec un scénario pas fini, un réalisateur qui n'est pas non plus expert du genre en manière générale. Et ça, c'est quand même une étonnante réussite, surtout notamment grâce à l'abattage de Robert Downey Jr. qui s'approprie complètement le personnage de ce milliardaire un peu égocentrique, un peu flambeur. Et puis même au niveau en termes d'effets spéciaux, l'armure voilà, qui a vraiment un beau rendu. Et puis les origines qui sont respectées dans l'ensemble, donc c'est un film respectueux. Où les problèmes de production se voient pas trop. Qui est relativement spectaculaire pour l'époque en tout cas, même si quand on le revoit... Ça reste encore un peu timide à la revoyure, mais pour l'époque, voilà, ça détonnait. Et puis c'est un carton inattendu, donc ils lancent
l'univers. C'était effectivement quand même un gros pari, parce qu'ils ont quand même réussi à rendre Tony Stark Iron Man cool, alors que pour beaucoup de lecteurs de comics, c'était un personnage qui était plutôt compliqué, qui a eu des bonnes versions dans les comics.
Mais qui n'a pas du tout pince sans rire,
c'est drôle. Il n'est pas super populaire, et c'est pas un personnage qui... C'est un personnage qui a même posé beaucoup de soucis à Marvel dans les années 70, personne ne voulait le scénariser... Un mec riche comme ça, bon, il se met des idées. On va le rendre alcoolique, on va essayer de créer une espèce de justice sociale, il perd sa société, etc. Mais ça n'a jamais été quelqu'un de cool comme il a pu l'être grâce aux
films. Et puis ils avaient trouvé des intrigues originales d'espionnage quand même à l'époque dans les comics, c'était quand même plutôt pas mal. Et en plus, c'est à la fin de ce film où ils teasent
ça commence,
Avengers. Mais là,
les problèmes
peut-être vous me corrigerez, mais je crois que c'était un pari.
C'était
plus une blague à la base, pas du tout tout le.
Alors, c'était une vanne en fait.
On peut parler de ça, effectivement, c'est la première scène post-générique qui est maintenant devenue une espèce de passage
de rituel.
De rituel.
Sacré.
Les gens attendent après la fin de film, n'importe quoi, on va voir un lavage, on attend après le générique, on s'attend à ce
générique de 7h30.
Jackson qui arrive et qui viennent annoncer la suite.
La mort de Louis XIV.
Mais ça, quand je reste sur internet en train de dire il y a une scène post-générique, je reste.
Et donc là, c'était, si je m'en souviens bien, Samuel Jackson.
Voilà, qui contacte Tony Stark pour lui parler du projet Initiative.
Il n'y avait même pas le terme Avengers.
Non, vous avez dit Initiative. Mais bon, devinez que c'était Avengers. Et d'ailleurs, c'est plus la réaction des fans. Super enthousiaste, en plus grâce au succès du film, c'est ce qui va amener.
Ils ont jeté un petit truc comme ça, on dirait, on va tester. Ouais.
Et je suis même pas sûr que c'était vraiment un clin d'œil. Ouais, puis...
C'est quand même, du coup, en termes de marketing, un espèce de coup de génie. Hein, donc à l'époque, voilà.
Enfin, si,
en oui, termes de marketing,
bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que pourquoi Samuel Jackson?
Oui, parce que.
Parce que le Nick Fury s'est inspiré de lui dans le
Ultimate. La nouvelle version.
Alors, dans la version Ultimate,
oui, c'est
du coup, de Mark Millar. Donc, on va pas parler du Millar World.
Ah bon
Par contre, ça va poser. Parce que vu la réaction des fans super enthousiastes, ça va leur mettre la puce à l'oreille sur développer un peu plus cet aspect-là. Ah, donc il y aura le Hulk qui sort, je crois, la même année.
Il y a le Hulk de Le Terrier
qui suit. Il y aura encore une petite scène, je pense, tournée un peu à l'arrache aussi, qui sera rajoutée à la fin. Et donc là, ça va leur mettre la puce à l'oreille à développer tout un univers. Et c'est ce qui va, pour moi, plomber au moins un ou deux films d'après où ils vont vouloir relier tout ça. Iron Man 2, ça raconte à peu près rien.
Ouais, y a plein de
parce que c'est que un teasing sur... sur ce qui va, c'est sur ce qui vous souhaite développer, du coup, il commence à lancer le projet Avenger, il y a l'introduction de la Veuve Noire dans Iron Man 2. Donc c'est un espèce de gros teasing, le scénario, ouais, c'est assez creux, il se passe pas grand chose, il y a même pas de scène d'action digne de ce nom, c'est assez ridicule. Et d'ailleurs, ça sera, de manière générale, ça sera le problème de tous ces univers partagés, mais là j'inclus DC et Marvel, c'est tous les films ratés des univers, c'est quand ils pensent à préparer la suite plutôt que le film en cours, c'est ce qui posera problème.
Y compris le Amazing Spider-Man 2, par exemple, qui introduit énormément de vilains pour d'éventuelles suites et qui n'auront jamais.
Voilà.
Et le développement d'univers, donc,
notamment. Bon, ils pensent à.
Qui n'auront jamais de.
Quand ils anticipent, ils préparent le reste avant de penser au film en cours. C'est ce qui fera les rater tous les films genre Ultron, c'est ça, c'est le problème aussi.
Ah, entre autres, seul, hein.
Entre autres, Batman versus Superman, c'est un des c'est le ah gros bon. Problème. Non. C'est gros. Bah si.
Alors, néanmoins, j'ai un contre-exemple qui est justement Captain America's First Avenger.
What?
Puisque le personnage est pensé pour intégrer l'univers moderne, et c'est ce qui donne l'aspect tragique du personnage, c'est-à-dire que Marvel c'est toujours assez fun, assez innocent, assez pop, c'est le cas pour First Avenger, mais la scène finale avec cette histoire d'amour avortée parce que le personnage disparaît dans le temps est très touchante et prend vraiment à bras le corps le côté tragique du personnage de.
Ouais, mais le film, il aurait pu ne jamais avoir de suite et ça fera juste une belle fin tragique. Et qui pourrait ne rien avoir derrière, le film existe en lui-même.
Alors, mais la logique Marvel était déjà
née. Oui, mais je veux dire, admettons le film est bidé, et que ça se termine comme ça, ça faisait un film qui se tenait tout seul.
Oui, le film se tient, mais là où le personnage se réveille à la fin du film, dans la fameuse scène de post-générique, et là où il y a toute la beauté tragique du personnage, c'est que ça va devenir un personnage qui est hors du temps. Si le personnage, on le sait, hein, c'est l'histoire de Captain America telle qu'il a été réinventé par Lee Kirby dans Avengers, mais toute la beauté tragique du personnage tient au fait que finalement il se réveille dans une époque
qui
n'est pas la sienne.
Oui, mais c'est le post-générique. Le film entier tient tout seul. C'est le problème du Tron et tous les autres films, c'est que ça s'incruste dans le film en cours.
Oui, mais le film est aussi pensé comme ça. C'est-à-dire que le film s'appelle First Avenger, il annonce la suite, et ce personnage a cette histoire.
Ce que je veux dire, c'est que le film en lui-même n'est pas parasité par ça. Ça arrive en post-générique. Alors, tous les autres films à problème, Iron Man 2, Ultron, Batman vs Superman, c'est des films. Bon, Thor, il n'y a rien qui tease quoi que ce soit au milieu.
C'est génial, c'est pas là qu'il a teasé.
Non, mais là, vous trollez pour rien. Thor, il y a d'autres choses à reprocher que ça.
Ah, c'est Thor. Mais j'imagine trop le Brainstorm. C'est Shakespearean Thor. Alors bon, vas-y, appelle Ken Branagh, dépêche-toi.
Non, mais là, ça n'a rien à voir avec
Thor. Thor, il y a du teasing.
C'est ça.
Ah oui, c'est ça. Il y a du teasing dans Thor. À un moment, ils en parlent, je crois, lui dit oui. Ouais, il y a un truc sur oui, OK alors, et tout, et on le voit et tout,
effectivement, il y a le faucon qui apparaît dans Thor, mais au-delà de ça, je pense que c'est vrai dans l'univers Marvel, à partir du moment où il n'y avait pas de plan d'ensemble, c'est-à-dire au début, c'est un peu accidentel, voilà, il y a Nick Fury qui va voir Tony Stark dans un bar, on sait pas.
C'est opportuniste, quoi, surtout.
Et une fois qu'ils avaient une visibilité sur 5, voire 10 films, à partir du moment où ils ont inclus donc c'est les tubes cosmiques, les gemmes de l'infini, donc voilà, enfin tout ça c'est un peu mélangé, mais du coup il y a quand même une vision d'ensemble et le ce qui marche dans Avengers et ce qui a fait le succès d'Avengers, c'est qu'à la fin du film on tease Thanos. Moi, il me semble que personne, en dehors des lecteurs de comics, connaissait Thanos avant cette scène de post-générique d'Avengers. Et les gens se sont quand même dit « Ah, mais c'est génial, dans Avengers,
pour l'avoir vu, pour l'avoir vu en projo
à Thanos bientôt. »
Et pour l'avoir vu en projo près, le premier Avenger, ça a rendu les gens fous. Hein. C'était l'apparition de Thanos.
Oui, mais
il n'y avait aucune rumeur, il n'y avait rien de quoi que ce soit d'annoncé.
Oui, mais après,
quand ça arrive...
Oui, mais après, ils nous ont fait le coup de teaser Thanos pendant 4 films. Genre, et les gens savaient toujours pas ce que c'est, qui c'était.
Bah oui, bah j'ai entendu. Pourquoi il y a le boy à la fin? J'ai entendu ça,
Et genre, ils ont teasé, ils ont fait le même teasage de
Thanos. Thanos, c'est pas là,
mais oui.
Mais tu le vois dans Guardians of the Galaxy.
Le voyage
du loin. Tu le vois jamais. Genre, à chaque fois, ils te le teasent.
C'est la menace fantôme.
Et genre, les garçons de 12 ans, ils sont là. Ouh! Et ils savent pas qui c'est, genre, ça fait 4 ans qu'ils disent Thanos, tu sais pas
ils
qui
sont forts,
c'est.
Ils sont forts, il faut leur reconnaître ça, ils sont forts.
Mais c'est en ça quand même que ça crée une attente. Je vais commencer le débat.
Ils ont jamais fait deux fois le même
Thanos. Avant d'arriver à DC, je vais commencer sur quelque chose qui a réussi. À mon avis, ça c'est quelque chose qui a réussi Marvel, c'est-à-dire à créer un vilain iconique sans même le montrer dans aucun film, alors qu'il va arriver dans le prochain.
Ça s'est joué sans la crédibilité des gens.
Alors que,
on s'en fout du méchant, quoi.
Alors que DC Comics est un des échecs des 5 films. Alors peut-être pas Man of Steel, parce que Zod reste assez charismatique et l'acteur... Et l'acteur peut le incarner. Mais sinon, ils n'ont jamais réussi à créer un vilain qui reste en mémoire. quand on voit Batman vs Superman, on s'attend pas, on n'attend pas Doomsday avec une impatience folle en se disant à la fin il y a Doomsday. Ares dans Wonder Woman,
mais
on a Jason Aaron.
Qui attend les méchants dans Marvel, quoi? Qui attend ça? Quels sont leurs réseaux, quoi?
Non, mais c'est vrai,
on s'en fiche.
Non, mais ce dont tu parles, c'est un mouvement totalement d'incrédulité, de hype, comme on dit maintenant, que les gens savent pas d'où ça vient.
C'est genre les mecs sur Twitter qui
disent, quand les gens voient Thanos, ils ne savent pas du tout qui est Thanos. Genre, ils sont en mode, ouais, mais ils savent pas. Et ça fait 4 ans que les gens, regarde. Non mais je peux te trouver un exemple.
DC fait exactement la même chose avec Darkseid, donc.
Non, parce qu'il y a une promesse et que...
Mais il y a une promesse de rien.
Pour l'instant, ce qu'a montré Marvel Studios et le fait que les gens aillent voir les films,
mais justement,
c'est
ils
que
ont rien
la promesse plus. Est relativement tenue. Sinon, les gens n'iraient pas.
Ils teasent un truc qui n'est pas arrivé en 4 ans.
Ce qui est très fort, c'est dans leur manière d'avoir monté leur univers et d'avoir... Ça, c'est par contre, c'est très bien fait. C'était opportuniste au début. Après, ils ont construit quelque chose, ils ont fait venir du monde, parce qu'il y a des grandes stars, voilà, il y a des plus grandes stars actuelles, elles sont dans le Marvel Cinematic Universe, mais il n'y a rien, quoi, c'est du vent, et c'est mais du marketing
oui, avant. Du vent, c'est du pur marketing.
Alors, en fait, moi, je suis entre vous deux au niveau de Thanos, parce qu'en fait...
Alors, on va à Thanos, d'accord.
Oui, bah, on parlait de Thanos, teasing de Thanos.
Après, je pourrais parler de personnages effectifs, hein. On va finir sur Thanos,
si on parle que de Thanos, je suis d'accord avec vous deux, en fait, parce que... Effectivement, ça fait 4 ans on le tease. Par contre, le truc où ça a fonctionné, c'est que je suis d'accord avec vous que je pense que les spectateurs, hormis les lecteurs de comics, ne connaissaient pas forcément Thanos à l'époque. Par contre, du coup, avec le succès des films, les spectateurs ont été se renseigner. Et du coup, tu vas voir sur les sites de Cinoche, pas forcément de geek, mais plus populaires, où tu lis des articles longs comme le bras, où ils théorisent sur lesquels j'aime et où ils se sont renseignés sur le contenu des comics. Et au bout du compte, ils savent maintenant très bien qui est Thanos.
Mais c'est grave parce que maintenant ils se disent spécialistes en comics et vont vouloir t'expliquer l'histoire des comics à la Victor. Ouais.
Sur ce côté-là, je pense qu'ils l'ont teasé un peu dans le vide sans doute et les gens ne savaient pas ce que c'était. Mais avec le succès des films, tout le monde a été sur Wikipédia.
Oui, non, mais je suis d'accord, mais ils ont créé quelque chose en fait, ils ont créé quelque chose qui les dépasse. C'est que maintenant les fans, tu les vois sur Twitter, tu les vois sur les réseaux sociaux. Ils ont créé quelque chose, il y a des attentes démesurées, des gens qui ne regardent absolument que ça, et qui, en fait, ils ont, on va peut-être en reparler.
Mais après, on va pas juger les films à cause des fans.
Non, mais je juge pas les fans, je juge sur ce qui, sur
les,
sur...
Là, si on parle de DC.
Non, mais évidemment. Sur ce que les films ont créé, en créant leur univers, ils ont uniformisé toute la prod.
Oh, bah ça, on va y revenir.
Voilà, on va y revenir, mais.
Mais là, sur la création de Thanos, par exemple, qui est un argument marketing, ce que je trouve très fort, c'est que c'est une figure mythologique qui n'a jamais été montrée et qui est la figure de l'ombre et qu'on retrouve dans plein d'œuvres populaires, c'est-à-dire le grand méchant qui dirige les choses et qu'on voit jamais et que les gens fantasment.
Mais c'est le degré zéro de la structure narrative.
Exactement.
Le truc,
c'est genre la menace. C'est l'apocalypse.
Exactement.
C'est la menace de l'apocalypse.
Attends, c'est le M dans Dr Gadget où tu vas seulement parler comme ça.
Le film.
Fabien,
juste un petit truc en termes de logique marketing. Le seul film fondamentalement focalisé sur le méchant thème de marketing, ça a été The Dark Knight.
Mais le méchant est très bon.
Mais parce que le méchant était, il était annoncé, il était préparé à la fin de Batman Begins, c'est tout.
C'était l'attraction principale.
Exactement.
Une scène pré-générique d'ailleurs, et non pas post-générique à l'époque de
Batman Begins. C'était la dernière scène du film en fait. Et en fait, sur Infinity War, la promo, elle s'axe bien sûr sur l'arrivée de Thanos, mais le fantasme, c'est pas l'arrivée de Thanos, c'est de voir tout le monde s'animer effectivement une planche de comics où tu as tout le monde.
Mais c'est un fantasme de gros geek qui
s'est arrivé. Non, mais ce fantasme...
c'est pas du cinéma, c'est un fantasme.
Non, attends, c'est un fantasme de lecteur de comics.
Ah oui, mais ce fantasme on l'avait eu avec le premier Avengers, c'est ça, on a dit oui. Ah c'est bon, on peut le faire. Oui. Donc c'est bon. Oui, maintenant
tu,
même...
tu avais 5 persos. Là on te dit vous souvenez le comics.
Oui, mais maintenant mais qu'est-ce qu'il veut mettre? Mais voilà, attends, mais qu'on passe de 5 à 25, maintenant je m'en fous.
Mais pas 25, ils vont mettre 70 des gens,
ils vont mettre 70. Il y a 60 personnages.
Mais oui, 60. Oui, mais moi qui ai déjà fait les premiers Avengers, je me suis dit ah c'est possible au cinéma. Donc voilà, ils l'ont fait, c'est bon. Mais qu'ils le refassent avec plusieurs autres, je dis c'est bon quoi. C'est,
mais ça,
ça devient l'étoile noire et après écoute, la super géante étoile noire.
Mais écoute, ça c'est pas du cinéma, c'est du genre. T'as le Samsung Galaxy S7, et bah prends le Samsung Galaxy S7.
Logique là,
mais 70 de plus, vous allez voir. C'est la même chose.
Quand je parle, quand je dis que c'est génial, j'ai pas parlé que de génie en termes de en termes esthétiques, j'ai parlé de génie en termes
marketing. Mais là on parle de cinéma,
c'est ça.
Après, il me semble que en termes cinématographique, faire vivre un vilain qui n'existe pas et que le public s'imagine, c'est-à-dire qu'il n'existe que dans l'imagination et dans la projection des spectateurs qui ne...
Oui, mais aime le maudit.
Ça, ça a été dévoilé, ça a été déjà fait.
Ça, c'est la base de l'histoire du cinéma.
Non, après, on parle d'un vilain qui n'a une histoire. Donc, on parle de l'histoire, alors, au final.
Oui, mais c'est juste que c'est le degré zéro de ce qu'est capable de faire le cinéma.
Oui, oui. Il est là, derrière. C'est une menace, quoi. C'est genre, c'est l'apocalypse, quoi.
Mais oui, c'est Dark Sidious et tout dans la
télé. Ça veut dire, ah, il y a quelqu'un qui fait un truc dans l'ombre, mais qui ça peut être?
Il est méchant.
Il est très méchant.
Je vais relancer une autre thématique qui, à mon sens, a fait le succès du Marvel Cinematographic Universe et qui manque à DC, qui est qu'il y a une adéquation complète entre les personnages et les acteurs qui les incarnent, et le fait qu'il y a une vraie connivence entre la troupe d'acteurs qui participent à Marvel Studios, qui manque d'ailleurs, on va en parler après avec du CCX, c'est-à-dire c'est des personnages qu'on ne connaît pas et c'est des acteurs qui n'incarnent pas leur rôle. Alors que là, par exemple, le dernier Thor est plutôt sympa, parce que il y a cette dynamique entre Thor, Loki, Hulk et les trois acteurs qui les incarnent qui marche.
Après là ça vient moins des acteurs que des films qui ont été produits à l'arrache. On a introduit tout le monde au forceps, il n'y a pas eu le développement qu'il y a pu avoir pour Marvel avec chacun son film pour bien connaître le personnage.
Alors là tu parles de DC, du coup.
Oui, de DC. Ouais. Là, c'est pas une question d'acteur, je pense. Peut-être on verra dans Aquaman. Oui, si on lui laisse le temps sur 2 heures de poser son jeu, de développer
les acteurs sont très bons. C'est juste que, comme tu dis, on leur a pas. Il fallait développer les films avant sur les personnages.
C'est ça. Avant j'accuserai pas les acteurs. Quoi.
En termes de stratégie, je suis d'accord. C'est complètement idiot d'avoir fait la Justice League maintenant. C'est rusher, c'est précipité.
Tu parles de connivence entre les acteurs Marvel, mais genre ça fait 5 films qu'on les voit. Et genre par exemple, tu dis Thor, on voit la connivence. Ouais, mais Thor, il y a 2 gros films de merde avant.
Oui, sauf que là, par exemple, dans Thor 3, Thor, il y a un réel derrière qui a su prendre ce qu'il fallait prendre dans le personnage, oui, après, et dans l'acteur surtout.
Il parle des liens entre les acteurs et tout, mais je veux dire, Loki, après on l'a vu dans tel Avenger, on l'a vu dans tel.
Et Loki film, change pas d'un poil. Loki, c'est un personnage, il est unilatéral.
Par exemple,
le mec qui trahit tout le monde.
Par exemple, dans le dernier Thor, la rencontre entre Hulk, dans l'arène, entre Hulk et Thor, c'est jubilatoire. C'est ce qui a fait. La première bande annonce est tombée, c'est ce truc
qui a tissé tout. C'est ce qui est intéressant dans Thor 3, c'est que ça joue avec les stéréotypes que Marvel a créé, les automatismes qu'on a, qu'on dit bah Thor c'est ça, Loki c'est ça, et justement à un moment il y a une tirade où Thor il dit à son frère, de toute façon je sais que de toute façon tu vas me couiller,
oui, parce qu'il essaie de lui faire un affaire une fois
plus, il le sait très bien, et il joue avec la répétition marvelienne entre guillemets.
Oui, mais du coup je me demande comment ils feront pour rebondir sur ça, parce
ils ne rebondiront pas, parce que
c'est là, il a la contre-sens de tout ce qu'ils ont fait.
Mais pour moi Thor 3 c'est un one shot, c'est un film rebelle,
mais comme Iron Man 3,
voilà, exactement.
Bien. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un univers qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine. Et que le grand public n'aura pas forcément une analyse aussi détaillée des films que nous on veut le voir. Bon, on s'attache beaucoup aux réalisateurs, aux scénaristes et tout ça. Mais le grand public, qui est aussi consommateur de séries télé, il ne faut pas l'oublier, se base sur, avant tout, les acteurs et les péripéties. Mais avant tout sur les acteurs, ce que le public recherche... C'est pas forcément la personnalité forte d'un film, c'est une notion de continuité. Et la continuité, elle se fait sur le temps. Donc pourquoi est-ce qu'on fait un film comme Thor Ragnarok et que le film cartonne et pulvérise les scores des deux autres Thor, c'est que déjà on connaît les personnages. Si t'as pas aimé le premier Thor, bah t'auras peut-être aimé le premier Avenger, donc tu voudras revoir le personnage. Loki, bah, qui est un personnage qui est réussi dans certains films, moins dans d'autres. Les gens quand même veulent voir Tom Hiddleston dans le personnage, parce que pour eux c'est un personnage qui est complètement assimilé maintenant.
Mais c'est un personnage, c'est à cause
l'âge d'or
de la série télé.
Voilà.
On dit que c'est quoi, c'est génial, mais ce qu'elle apporte au cinéma, c'est pas forcément les bonnes choses. Et là on est dans une logique sérielle, épisodique, où ce qui compte c'est ce qui va se passer plus tard. Ouais. Et on te tease comme on...
Alors,
comme
bah c'est ce qui a donné les plus mauvais films.
On en parle de la critique ou pas?
On va y arriver, mais sur cet aspect feuilletonesque, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça vienne de la série télé. Il faut pas oublier que que ça vient du céréal, mais surtout que ça vient des comics. Et les comics, en fait, sont basés sur cet aspect feuilletonesque.
Mais là, on en
est à l'époque. Et puis, même sans parler du comics, t'as la littérature du 19e, les Trois Mousquetaires et tout. C'est du cliffhanger.
Man, 2008, oui. 2008, c'est quoi? C'est l'essor de Mad Men, par exemple, qui débute.
Dexter,
voilà, on est en plein dans.
D'ailleurs, on reparlait du teasing de Thanos, c'est quelque chose comme ça, voilà, c'est un
mission contre Thanos. C'est ça, mais là, on est en plein dans.
C'est l'homme à la cigarette, quoi, en gros.
Mais on est dans une logique de série télé, parce que.
Mais c'est l'homme à la cigarette, mais je reviendrai vraiment, et tu vas encore me reprocher ça, sur l'aspect comique.
Non, je suis d'accord.
Quand clairement écrit les X-Men et John Byrne le dessine, la dernière planche, t'as une planche de cliffhanger avec un méchant qui complote dans l'ombre. Chris Claremont, il sait pas du tout qui va être ce mec et que 5 ans plus tard il va avoir.
Oui, les scénaristes ils viennent d'où?
Sur son intrigue.
Les scénaristes ils viennent de la télé, quoi.
Oui, exactement.
Les frères Russo, c'est qui?
Joss Whedon, c'est qui?
Enfin, ça, tu veux pas
derrière Buffy, quoi.
Ils réalisaient les Community, des trucs comme ça.
Voilà, Joss Whedon,
ça, tu veux pas reprocher. C'est des mecs qui viennent de la télé. Des réalisateurs, des scénaristes qui venaient de la télé, ça a toujours existé. Tu veux pas leur reprocher?
Non, mais là, je leur reproche pas. Non, mais la réalité,
je parle de l'influence de la télé.
Alors, on peut parler justement des réalisateurs et sur quelque chose que tu as dit, t'as un truc avant les réalisateurs.
Justement, sur ce que vous disiez sur les sériels et tout. C'est pas parce que ça existe dans le comic qu'on doit le faire dans le cinéma. C'est deux arts différents. Genre, qu'est-ce que vous comprenez pas dans ça? Cinéma, c'est pas le comic, c'est pas la
comédie. On est d'accord avec toi, mais on dit juste que c'est un des facteurs du succès qui a aidé. Évidemment. Après, on peut être contre.
Mais fait pas du bon cinéma, justement.
Je suis d'accord avec toi. Je te dis juste, c'est un des facteurs, vu l'histoire des séries, qui a aidé.
Quand t'adaptes la littérature, tu reprends pas tout au mot près, tu refais pas tous les trucs. En plus, tu fais du cinéma après.
Tu peux pas dire que Marvel Studios reprend exactement les comics quand ils appellent Captain America Civil War, ça n'a rien à voir avec Civil War.
Ouais,
c'est pas la question, c'est juste que au niveau
formel. Non, mais vous parlez de structure et de formel. Et justement, la structure des comics, c'est propre aux comics, c'est pas la structure du cinéma.
En fait, c'est ni des films, ni des comics, machin.
C'est pas assez bien.
Mais tout, c'est des produits
qui font en ce moment, c'est tout.
Et c'est pas du
c'est bien. Oui, non, mais je veux dire, c'est ce qu'ils font.
Ils font leur film en fonction des retours des consommateurs.
Ça remonte aux années 40, les films Universal Monsters. Ça a commencé en film individuel, puis ensuite ça a débouché en...
Les Frankenstein versus Dracula, et tout ça.
Enfin, Frankenstein contre le loup-garou, puis ensuite ça amène à la maison
de Frankenstein. Oui, mais ça reste quand même des films, c'est genre, c'est pas des espèces de gros trucs
pour toi aujourd'hui, 70 ans plus tard.
Même quand tu les regardes maintenant, t'as pas l'impression de voir comme si tu voyais les Marvel maintenant.
Non, mais t'as une logique feuilletonesque qui se met en place.
Oui, je veux bien, mais tu veux regarder chaque film tout seul, comme ça, alors que je défie quelqu'un dans 20 ans de regarder genre un film random Marvel comme ça et de comprendre tous les enjeux et toutes les discussions de tous les
personnages. Winter Soldier, ça regroupe l'arc de c'est comme ça,
Baker,
le groupe des méchants nazis machin tout ça,
Hydra,
et ça le finit. Ça le conclut, par exemple. Tu vois que ça
fait. Après,
Captain America, c'est concentré sur.
Ça conclut un arc dont tout le monde se fout.
Mais c'est juste ça, ça fait l'intérêt du film, tu vois. Le teasing qu'il y a après, machin.
On s'en foutait de si ça se dans Winter Soldier. Genre, non, va demander au public la dernière truc de Winter Soldier. Le pourquoi ils se battent de moi, tout le monde s'en fout.
Tu peux dire ça, non, là, tu peux pas dire ça.
Si, Winter Soldier, va demander à quelqu'un qui a vu Winter Soldier de quoi ça parle. Raconte-moi de quoi ça
parle. En sortant de
tout le monde s'en fout. En sortant de mais maintenant, même lui, il te dit, ouais, j'ai adoré The Winter. Dis-lui de te raconter
les deux et les abris. Je te dis Transformers 3, je te dis ça maintenant.
Moi, je te dis Transformers
3, tu vas me raconter l'histoire.
Alors, c'est Optimus Prime qui revient sur
Terre
et qui après il revient sur Terre et il découvre qu'il y a les autres crossovers qui arrivent.
Et ça a produit un Winter Soldier.
Et on va dire, moi, c'était
Winter Soldier à travers Hydra, ça va remettre. C'est Winter Soldier, on s'entend plus du tout, là. C'est plus compréhensible.
Winter Soldier à travers, donc justement, le démantèlement d'Hydra.
Tu te souviens d'une scène, mais tu te souviens pas de Winter Soldier.
Tu te souviens seulement de la relation avec Winter Soldier. D'une scène dans le Winter Soldier, c'est la scène dans l'ascenseur.
Exactement.
C'est la seule dont je me
souviens. Ou sinon, la scène avec où ils se battent avec Bucky dans la rue, parce que c'est la seule scène de cinéma du
monde. Je me souviens du combat entre Winter Soldier et Captain America sur la route au niveau du pont.
Mais c'est tout.
Il y a plein de scènes comme ça. La fin avec les vaisseaux.
Je peux me dire, tu te souviens des scénarios de tous les blockbusters quand tu venais voir?
Non, mais je veux te dire que justement, n'utilisez pas ça pour défendre de me dire oui, ça finit l'arc de l'Hydra.
Alors, tout le monde s'en fout. T'as une histoire construite avec un début, une fin, où t'as une organisation, le Shield, qui est gangréné de l'intérieur par Hydra. Et t'as une espèce de découverte au fur et à mesure d'une espèce de poison qui a gangréné donc cette organisation qui était supposée irréprochable. Et à travers ça, t'as toutes des questions un peu géopolitiques qui sont développées.
Mais c'est pas super profond,
un film de super-héros, il y a quand même des pistes qui sont racontées et il y a des choses qui sont Il y a des pensées qui sont insignifiantes et qui ont une réponse.
Je crois, Kefren, que tu sous-estimes l'intelligence du produit que peut être un film Marvel. Et à mon avis...
Non, je sous-estime pas l'intelligence. C'est eux qui sous-estiment l'intelligence des gens en faisant de tels produits.
À mon avis, le grand public va pas forcément voir tous les films Marvel Studios, mais va voir un film Marvel Studios.
Non, moi je pense qu'ils vont tous les voir. Parce que sinon, ils font pas un milliard à chaque fois si tout le monde va
aller voir Captain America Civil War sans avoir vu Captain America le Soldat de l'Hiver, et autant les spectateurs qui peuvent suivre l'ensemble de la saga vont retrouver des références et la suite de tel arc, autant quelqu'un qui voit juste un des films Marvel sans avoir vu le précédent et sans forcément aller voir le suivant va quand même comprendre.
Ah bon, alors je défie d'aller voir le début de Avenger Ultron et de dire à quelqu'un qui a jamais vu les autres de quoi il parle pendant 30 minutes au début de Ultron.
Non mais là c'est un des films où on parlait tout à l'heure qui a ces problèmes qui tisent du vide.
Non mais il tise même pas, c'est-à-dire qu'il parle des films précédents pendant 30 minutes, il parle des films d'avant
de Marvel, ça n'a rien à voir avec les Captain Américains par exemple. À part Civil War, qui pour le coup est le moins bon des trois et qui est un Avengers 2.5, quoi.
Et encore une fois, moi je pense que dans Avengers, il y a toutes les informations qui sont que ce soit dans Avengers ou même dans Captain America Civil War, il y a toutes les informations qui sont données aux spectateurs pour qu'ils puissent comprendre l'intrigue du film sans avoir vu les films.
Parce qu'en fait, le problème, en tout cas chez Marvel,
alors si c'est seulement les enjeux du film qui sont les enjeux de pour un spectateur lambda, et ben c'est bien pauvre.
Parce que le seul problème, la seule période où Marvel ils ont eu ce problème là où les films n'arrivaient pas à exister par eux-mêmes, c'est la première période où ils savaient pas trop où ils allaient, c'est Iron Man 2,
non, mais même après...
c'est le premier Thor, mais après Ant-Man, ça se regarde tout seul, sans que t'as absolument pas besoin d'avoir...
Ah oui, mais on va parler dans Ant-Man que Edgar Wright a...
Non, mais je te parle pas de ça, je te parle juste le film, tu peux regarder sans savoir ce qui va se passer après, ce qui s'est passé avant.
Tu sais que dans Ant-Man, il y a plein d'idées d'Edgar Wright qui sont toujours là.
Mais oui, justement...
Non, mais moi je te parle, là on parlait de continuité, Ant-Man, ça se regarde sans que tu saches...
Mais Ant-Man, c'est une origin story. Mais bien sûr, ça se regarde sans que t'aies vu
le film. Même le deuxième Thor, t'arrives au milieu. C'est comme je vais donner un exemple.
Quand tu regardes. De compréhension de la linéarité du scénario. À mon avis, c'est un faux procès à faire à Marvel de dire on est obligé de voir tous les films pour comprendre.
On ne dit pas qu'on est obligé, je dis que si déjà la qualité des films est médiocre, si en plus vous enlevez le matériau des films précédents,
j'ai envie de dire.
Que vous regardez, c'est extrêmement pauvre ce que ça raconte. Que c'est de l'ordre d'un épisode.
C'est
de l'ordre d'une série de 25 minutes.
J'ai envie de te dire, l'Empire contre-attaque, tu tombes au milieu.
Bah, c'est nul.
Ok, t'as pas vu l'Empire contre-attaque, c'est nul. T'as pas vu la guerre des étoiles, mais juste, t'entres. En plus ça introduit, ça démarre.
Oui, mais l'Empire contre-attaque, t'as pas besoin d'avoir tout ça parce qu'il y a la mise en scène qui te fait comprendre les
Si,
le problème, le premier Star Wars, hein, c'est
oui, mais...
c'est
bah oui, ça commence immédiatement.
Donc voilà, donc il y a pas besoin.
De toute façon, c'est le lot de tous les Star Wars.
Donc, bah oui, non, mais parce que tu fais un reproche, le premier Star Wars, tu tombes dessus quand t'es gamin à la télé.
Oui, mais les enjeux qu'il y a dans le film dépassent après ce que ça raconte le film. Alors, ce n'est pas le cas dans le film, dans les films Marvel. On parle pas de métaphysique de la vie Marvel, alors qu'on en parle dans Star Wars, justement.
Non, mais la métaphysique, t'as 8 ans, tu tombes par hasard sur Star Wars à la télé.
Tu t'en fous la métaphysique.
Mais si, non, justement, ce qui t'accroche et que ça raconte quelque chose de supérieur à ce que t'es en train de regarder.
Le bon et le succès des gardiens de la galaxie, parce que franchement, ça parle à personne.
Perso inconnu,
c'est complètement.
C'est pas du tout le même univers que les autres films.
C'est vraiment pas voué à marcher autant que les autres.
Mais si, justement, si.
C'est ça, c'est pas bien.
Attends, ils ont vachement quand même joué dès le départ sur la promotion, sur le côté nostalgie des
années 90. Exactement.
C'était vraiment là, pour le coup, c'était vraiment la période où il y avait vraiment le revival des années 80.
Oui. La bande annonce,
La promo, elle jouait plus sur les personnages.
Les 80, synthé et tout ça. C'était plus un truc années 70. C'était plus un truc fun. C'était pas un truc Stranger Things, synthé, néon et tout ça.
Et c'était avant. J'aimerais bien aussi qu'on parle d'un sujet qu'on a évoqué qui est le choix des réalisateurs. Alors, on a évoqué Kenneth Branagh dans Thor. Et effectivement, à ce moment-là, il pouvait y avoir un certain opportunisme de la part de Marvel Studios de dire. Voilà, c'est un film shakespearien, on va prendre Kenneth Branagh. Pour le 2, bon, le premier a pas très bien marché, qu'est-ce qui marche, Game of Thrones, on va prendre un réalisateur de Game of Thrones. Finalement, il n'y a pas aussi une évolution dans le choix des réalisateurs de Marvel Studios au début, et est-ce que le Marvel Studios de 2008, c'est le même Marvel Studios qu'aujourd'hui, en 2017, en termes de choix esthétique et en termes de réalisateur?
Bah déjà, non, parce qu'il y a un passage fondamental, c'est, je crois, vers 2010 ou 2011, ils sont rachetés par Disney, Marvel Studios. Donc là, c'est ce qui, je pense que ça a une grosse influence sur ce qui va arriver après. Alors, Marvel Studios, si on doit comparer à DC, donc DC, comme on a vu tout à l'heure. Comme on a vu tout à l'heure, donc.
On va lancer aussi sur DC, Kefren.
Mais DC, comme on a vu tout à l'heure, il y avait une politique des auteurs où ils ont toujours pris de tout temps, de toutes les époques, ils ont pris des vrais. Réalisateur avec un univers, une patte.
Mais il a une patte,
on peut dire ce qu'on veut, Et donc, même dans la dernière période, sauf qu'avant, il les laissait faire, il y avait cette politique des auteurs. Et là, ils ont voulu suivre le reste. Alors que Marvel, ils sont perdus en prenant des réalisateurs confirmés, alors qu'ils voulaient uniformiser un univers. Alors à partir du moment où ils ont.
Marvel, en fait, ce qui est bizarre, c'est que. Souvent, les films, les projets, leur production, ça diffère complètement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des films où ils vont les... Non, mais si, parce qu'au final, les Gardiens de la Galaxie, enfin, disons que ça va, si ça va direct dans leur bonne direction, ils vont pas empêcher le réalisateur Taika Waititi,
C'est ce que je disais hier quand j'ai été en tour 3, c'est que, à partir du moment où on respecte leur charte, qu'elle soit visuelle ou... Et ben après, tu peux faire ton truc, et Waititi, il l'a bien fait. Il nous a fait une verre aux veines un peu, quoi. Tu vois,
tu t'enflammes un petit peu.
Non, mais toute proportion gardée. Mais je veux dire, il a essayé de parasiter le Marvel quand même. Tu sens que.
J'aime bien Thor 3, mais
il joue le jeu. C'est toujours maintenant.
Il est sur un équilibre.
On se retrouve avec.
Il est entre les deux. Et parce que tu peux pas faire comme Verhoeven faisait avec Starship Troopers. Tu peux pas le faire.
Non, mais Verhoeven, il y a eu des circonstances avec Starship Troopers. Il y a des circonstances particulières.
Oui, il comprenait même pas, il disait même pas
les. Non, c'est même pas ça. C'est qu'il y avait le studio qui changeait de direction. Pas ce qu'il faisait.
En tout cas, ce qu'il arrive à faire, à parodier ce que fait, ce qu'on fait les précédents réels, ce qu'on fait les autres. Il parodie la formule Marvel.
Mais il arrive à me souvenir, par exemple, le personnage qui joue dans le film, l'espèce de chef des esclaves qui double lui-même.
Ah oui, c'est vrai.
Tu sens qu'il amène, là, par ce personnage-là, il amène quand même son univers dans le.
C'est lui-même qui le double.
Mais c'est toujours à mi-chemin, tu vois, effectivement.
Il joue le jeu, mais
en même justement, moi, je pense que le Waititi existe parce que James Gunn existe. Je pense pas que si James Gunn n'avait pas photo, ils auraient laissé le Waititi.
James Gunn, c'est l'écurie trauma, quoi.
Ben oui.
Par contre, il y a un avantage, je trouve, à ce côté qu'on peut reprocher d'uniformiser à Marvel, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, même quand ils prennent un mauvais comme Scott Derrickson, Doctor Strange, c'est un film chrétien. Pourtant, donc il y a un côté.
Sinister, c'était bien.
C'est un film, c'est des films de producteurs en gros, les Marvel. Voilà, c'est des films de producteurs bien tenus. C'est
à, ça à propos de producteurs, il y a un nom qu'on n'a pas évoqué, qui est Kevin Feige, qui est le patron de Marvel Studios. On sait aussi qu'il y a eu une scission entre Marvel Studios et Marvel Entertainment. Donc c'était Perlmutter qui chapeautait le tout. Et du coup, il y a eu vraiment un schisme entre les deux, au point que Kevin Feige a demandé, a fait pression sur Disney pour que Perlmutter ne gère plus du tout Marvel Studios et continue à gérer Marvel Entertainment. Le premier film, donc...
Mais c'est quoi la différence, Perlmutter, il gère quoi?
Alors les...
Entertainment, c'était la société qui en fait s'occupait de toutes les prods audiovisuelles Marvel, à la fois donc cinéma, série et animation, qui était gérée par Avi Arad. Avi Arad, tout à fait, qui lui produisait les séries d'animation Spider-Man, et c'est lui qui a chapeauté personnellement les films de Sam Raimi.
Merci Venom.
C'est grâce à lui qu'on a tout ça en même temps.
Voilà, le film de Hulk, c'est lui. Donc les tout premiers films Marvel des années 2000, c'est lui, les X-Men de Bryan Singer. Et il y avait aussi les Spider-Man de Mark Webb, c'est encore lui parce qu'il est resté dessus. Et Kevin Feige, c'était son poulain. Kevin Feige, vous voyez son nom sur le générique de Spider-Man 2. Il était dans la prod. Et c'est à partir de là où Kevin Feige, lui, il a commencé aussi à prendre un peu plus de galons. Et qu'effectivement, il y a eu la scission dont Victor parlait, puisque finalement, Marvel Studios s'est construit sur les succès des films Marvel faits par les autres studios, en fait. Parce que, voilà, l'entité est devenue tellement forte que du coup ils ont pu créer eux-mêmes leur propre studio et racheter toutes les licences qui n'étaient pas encore adaptées au cinéma et qui étaient, on va dire, dans le flottement de studios, genre Captain America, allez, on récupère, Iron Man, on récupère, ils ont tout récupéré, ils ont récupéré Hulk après, mais toutes les licences qui étaient dans les limbes et qui n'arrivaient pas à se monter, ils se sont dit, bon, bah, si on commençait par là, d'où Iron Man, parce qu'il y avait un défi visuel intéressant avec l'armure, tout ça. Donc voilà. Et donc, cette entité Marvel Studios, par contre, n'avait pas de distributeur, parce qu'il faut un distributeur. C'est pour ça que c'est Paramount qui s'occupait de distribuer les premiers films jusqu'à First Avenger compris, même si l'achat de Disney s'est fait en 2009. Et Avenger, c'était le premier film où on signifiait, ça y est, Marvel Studios est une entité indépendante, enfin, sous couvert de Disney, bien sûr, mais qui n'a plus besoin d'un distributeur autre que Paramount pour sortir ses films, ou Universal dans le cas du film de Hulk de l'Éternel. Donc en fait, c'est une entité qui a été générée d'une autre entité. Mais Marvel Entertainment existe toujours pour produire les films de la Fox.
Ah oui, d'accord.
Et pour produire...
Oui, c'est pour produire ce qui est fait en dehors du studio Marvel.
Exactement.
En dehors du studio Marvel. Les séries Netflix aussi, je crois. Tout ce qui est... donc c'est NBC. Non, ABC, toutes les séries télé, en fait.
Agent of S.H.I.E.L.D.
Que ce soit chez Marvel, ou que ce soit directement chez NBC. Donc,
parce que c'est Disney.
Donc Agent of S.H.I.E.L.D. Et ils gèrent aussi les comics, d'ailleurs, pour le coup, Marvel.
Les animés.
Marvel Studios est vraiment devenue une entité indépendante qui répond uniquement à Disney depuis Doctor Strange, en fait. Donc il y a eu un changement de paradigme qui est assez important. Est-ce que vous, esthétiquement, vous l'avez vu, par exemple, au niveau des choix, au niveau des...
Honnêtement...
Les logos.
Oui, le logo a changé. Le logo a changé. Très bon logo, c'est tout.
Mais après, non, esthétiquement, non. Objectivement, non.
C'est toujours de la merde.
Même on sent que ça va encore plus loin, quoi. On sent que c'est
la merde.
Pas dans la merde, mais dans
de trolley.
On sent l'assise, quoi. On sent l'assise et on sent que.
C'est des chiffres, hein, de toute façon. L'argument de
Kevin. Mais plus il y a des chiffres et
plus. Voilà, l'argument de Kevin Feige, justement, par rapport à l'assise de Perlmutter, c'était que. C'était pour libérer notamment des budgets. Voilà, Perlmutter a une réputation d'être assez pingre par rapport au budget et par rapport à ce qu'il peut allouer sur un film. Et Feige se sentait très restreint par rapport à ce qu'il comptait faire. Donc c'est pour ça qu'on a cette promesse aussi sur le troisième Avengers.
Ils ont augmenté le budget.
Et il y a, ils regardent
donc, tout
à la réponse, peut-être sur la direction artistique, sur le choix des réalisateurs, sur autre chose.
D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça correspond à peu près à la période où après, parce qu'on a eu le premier Iron Man qui était plutôt pas mal, après il y a tout un, c'est quand même assez flottant, c'est quand même très inégal les films Ils sont pas très spectaculaires non plus. Le premier Thor, c'est quand même très très pauvre.
Oui, et puis Thor, enfin Thor 2, même aller chercher, c'est Aaron Taylor de Game of Thrones. Enfin, ouais. C'est quand même un espèce
le Thor
de
Thor 2,
mais par contre,
scénario, il faut aller vers les choses cinématographiques.
Mais par contre, ça correspond à la période où les films Marvel commencent à avoir une certaine tenue, que ce soit même narrativement ou même au niveau spectaculaire, on commence à avoir de la gueule. C'est vers cette période, à partir de, ouais, on va dire, Winter Soldier, Gardien de la Galaxie, où ça commence à... Parce qu'avant ça, c'était quand même pas génial.
Gardien de la Galaxie à le revoir est assez pauvre visuellement.
Non, mais en fait, il y a quand même. C'est non, mais il y a du budget, je veux dire, il y a des moyens. Avant, ça avait l'air quand même assez cheap. Je suis premier Thor et quand même.
Dis donc, James Gunn, je trouve que c'est les films qu'il a fait précédemment au Gardien. Il y a un vrai pas de mise en scène.
Il sait gérer un petit budget aussi. Hein.
Voilà, alors que les Gardiens, je trouve qu'il c'est vraiment. Je sais pas, ouais, c'est vraiment. Je trouve pas ça, enfin, c'est très sobre, trop sobre, lui.
Non, il y a quelques passages, il y a la planète, là, avec un crâne, là, enfin,
il y a... Bah, le deuxième, il y a plus d'ambition, déjà.
Bah, la production est pas mal. Non, le deuxième...
Bah, visuellement, en tout cas, il y a plus d'ambition.
Encore, je suis pas super d'accord.
Je mets un peu de nuance là-dessus, ouais. Je me permets, parce que ouais. Gardien de la Galaxie, le premier, c'est peut-être le film le plus travaillé visuellement de la phase 2, parce qu'à partir du moment où on a basculé dans cette logique... Mais... Visuellement, ouais. À partir du moment où on a basculé dans cette logique sérielle, je trouve justement, contrairement à Justin, que les films de la phase 2 sont beaucoup plus télé, alors que quand tu vois le film de Joe Johnston, donc First Avenger, c'est un film avec une photo super travaillée, avec un travail sur les ombres, sur les éclairages, soit très ombré, soit très bleuté, quelque chose de très travaillé, une production design de Rick Hendricks qui est vraiment très très belle. Même Thor de Kenneth Branagh, qui est un film qui n'a aucun sens visuellement, il y a quand même des décors dorés immenses. Enfin, tu sens que sur Asgard, ils ont essayé de créer un truc assez monumental. Ouais,
mais dès que t'arrives sur Terre, ça
ressemble. Oui, alors, je suis d'accord, c'est ton jour de naissance au Mexique. Mais bon, tu vois, il se faisait n'importe quoi avec les décadrés. Enfin, ils faisaient un truc, ils faisaient un délire, mais au moins il y avait de la couleur, il y avait du cadre. Mais quand tu bascules sur la phase 2 avec Winter Soldier, où il n'y a pas de décor, où il n'y a pas d'éclairage, sur Thor 2...
C'est vrai que la photo dans les Marvel, c'est...
Voilà. Mais c'est juste sur cette logique, sur les grosses franchises, Thor The Dark World, il n'y a pas de photo, ils ont juste mis un filtre marron-vert dégueulasse sur tout le film, et Natalie Portman qui a son maquillage numérique complètement pourri à la fin, je me dis que là, il y a vraiment eu un problème.
Après, moi, quand je dis ça, je parle vraiment en termes de blockbuster spectaculaire, un peu tenu. Je trouve que ça s'améliore quand même à partir de Winter Soldier, malgré les défauts formels. Moi, je trouve que c'est des blockbusters qui se tiennent, mais avant, pas du tout.
Iron Man 3 était un film beaucoup plus compétent, c'était sacrément bien emballé. Iron Man 3, visuellement, c'était carrément bien foutu. Hein. Mais visuellement, c'était superbe.
Mais en fait, d'un point de vue général, techniquement, juste au niveau de la technique, que ce soit les effets spéciaux, je parle pas d'esthétisme ou de la mise en scène.
En termes de money shots,
voilà. Pas de dissonance en même temps, parce qu'on va rien comprendre.
C'est-à-dire que Marvel déçoit assez rarement, quoi. C'est toujours...
Mais t'as pas d'attente, ils peuvent pas te décevoir.
Non mais je veux dire, techniquement, ils assurent de ce côté-là, ils ont vraiment leur grosse équipe derrière. Alors, juste pour revenir sur DC par exemple, on voit qu'ils veulent faire des gros money shots aussi, mais
techniquement, ça sur Man of Steel,
oui. Man of Steel, mais t'as un peu qu'il y a eu une espèce de décadence depuis.
Ce que je vous propose, c'est de clore cette partie sur Marvel, parce qu'on n'a pas du tout encore parlé.
On n'a pas parlé de l'esthétique Marvel.
On va arriver à 2 heures, mais peut-être qu'on pourra justement introduire, donc quand on parle d'esthétique, l'esthétique DC Comics et revenir effectivement sur ce qu'il y a
chez Marvel. De la photo fantôme
d'Avengers. Donc avec pire film. Donc on va terminer cette deuxième partie sur Marvel et on va entamer la troisième partie sur DC Comics.